Enfants, qu'ils soient scolarisés ou non, commençaient leur journée par la lecture du Coran, sous la surveillance d'un maître marabout, excepté le jeudi et le vendredi, jour du week-end islamique. Oncle Moussa veillait personnellement à ce que tout le monde soit debout à l'aube et n'hésitait pas à toquer à la porte des récalcitrants. La chance appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ne pas respecter cette vérité apportera de la malchance, voire une terrible calamité, tempêtait-il. Pour la cuisine, nous, les quatre épouses de mon oncle, celles de mes cousins et moi-même, avions à faire des rondes. Le defande, le tour de cuisine, pour chacune, durait 24 heures. Il commençait par le repas du soir et se terminait après le déjeuner du lendemain. Si nos belles-mères nous laissaient préparer les repas, elles se chargeaient de la répartition des plats pour chaque groupe de la famille. Il s'agissait surtout d'éviter que notre manque d'expérience ne nous fasse commettre des erreurs de distribution. Le plat le plus important, destiné aux hommes, était servi aux aouleru. Puis celui des femmes, enfin celui des enfants par genre et par catégorie d'âge. Chaque bru avait aussi pour devoir d'aider sa belle-mère quand c'était le tour de celle-ci. Généralement, elle finissait par la remplacer pour tous les travaux domestiques. Le menu manquait d'originalité. Il n'était pas diététique et ne changeait pas, ou si peu. Oncle Moussa faisait égorger des moutons, des poulets ou un bœuf. L'essentiel était conservé au congélateur, tandis que certaines parties étaient frites ou séchées. Nous consommions de la viande à chaque repas. À la sauce tomate, braisée, bouillie ou aux légumes. Le riz était la céréale la plus consommée, remplacée parfois par du mil rouge, du sorgho ou du maïs. On commençait habituellement la journée par du riz à la sauce de viande, en buvant soit du lait de vache trait le jour même, soit de la bouillie au lait caillé agrémentée de pâtes d'arachide. Il y avait aussi du café ou du thé, préparé chaque matin et que l'on conservait toute la journée dans de grands thermos. Seuls les hommes pouvaient prétendre au beignet ou au pain, car si ces denrées avaient été destinées à toute la maisonnée, composée de plus d'une vingtaine d'adultes et de dizaines d'enfants, cela aurait représenté un énorme budget que mon oncle ne jugeait pas utile d'assurer. Nous n'avions pas le droit de nous servir seuls. C'était la Daada Sare, la première épouse de mon oncle, qui se chargeait de nous donner ce que nous devions préparer, tout en tenant compte de la visite impromptue de membres de la famille éloignée ou de simples connaissances. Quand elle était absente ou indisposée, c'était la seconde épouse qui prenait la responsabilité de la concession. Le soir, les hommes dînaient à part. Un cuisinier, engagé par mon oncle, préparait un repas spécialement pour eux, plus varié et plus riche que celui des femmes. À côté de l'incontournable boule de couscous et de sa sauce de légumes, ils avaient droit généralement à des frites de pommes de terre ou de plantain, bien sûr de la viande, mais aussi du poisson braisé, de la bouillie, de la salade, sans oublier le thé ou le café. Pendant ce temps, nous, les femmes, mangions aussi ensemble. Il n'était pas possible que l'une d'entre nous choisisse de dîner seule, ni surtout d'avoir un plat spécifique. Si j'avais une envie particulière, j'appelais ma mère, qui, discrètement, me faisait parvenir le plat en question. Ou alors je demandais à Moubarak si c'était possible, les jours où il était de bonne humeur, évidemment. Nous passions beaucoup de temps entre femmes pour travailler dans le grand hangar, placé devant les appartements de nos belles-mères, qui servait alors de lieu commun à toutes les femmes de la maison. C'est là que l'on bavardait, décortiquait les arachides ou coupait les légumes, que l'on tressait ou dessinait pendant des heures sur nos mains et nos pieds des tatouages au henné. Nous pouvions aussi regarder la télévision, mais uniquement les chaînes arabes, car un jour qu'il avait surpris ses épouses absorbées dans une série où les baisers occupaient l'essentiel du scénario, oncle Moussa avait interdit les chaînes occidentales et africaines. Fou de rage, il avait aussitôt fait appeler un technicien à qui il avait demandé de crypter ce qu'il désignait comme « les chaînes du diable ». L'homme avait quand même réussi à nous laisser l'accès aux films bollywoodiens, dont les histoires d'amour romantiques nous enchantaient lorsque le maître des lieux était absent. Mais dès qu'il rentrait, la seule chaîne qu'on entendait redevenait celle de la Mecque, la voix des imams. Moubarak, lui, ne se gênait pas pour regarder tout ce dont il avait envie. Il disposait d'un câble et accédait à toutes les chaînes occidentales disponibles. Il possédait aussi un lecteur DVD et n'hésitait pas à se